Chapitre 84. Les fuyards s'étaient retirés dans Cordoue. César était d'avis de les poursuivre et d'entrer, s'il était possible, en même temps qu'eux dans la ville. Mais les soldats étaient tellement brisés qu'ils n'avaient plus de force que pour piller les morts et que, cette opération accomplie, les uns s'étendirent à terre, les autres s'assirent, les moins fatigués restant debout, appuyés sur leurs javelots ou leurs lances. On coucha sur le champ de bataille, chacun à la place où il se trouvait. Le lendemain, avec les 30 000 morts, on fit une circonvallation autour de la ville. Chaque cadavre, la tête tournée vers les murailles, était cloué à son voisin par un javelot, et à ses javelots étaient suspendus les boucliers. César laissa un tiers de ses forces devant Munda, et avec le reste de son armée, alla attaquer Cordoue. Cneius Pompée avait fui sous l'escorte d'un gros de cavalerie et s'était retiré à Carthée, où était son armée navale. Sextus Pompée s'était enfermé dans les murs d'Osuna. Nous les retrouverons tous deux, suivant César, dans son expédition à Cordoue. Les fugitifs s'étaient emparés du pont. César ne pensa même point à les forcer. Il roula dans le fleuve de grandes corbeilles pleines de terre et improvisa un guet factice sur lequel passa son armée. Puis il campa devant la ville. Scapula la défendait. Il s'y était retiré après la défaite de Munda et avait soulevé les affranchis et les esclaves. Mais se voyant poursuivi par César, il ne songea point à fuir. Il fit dresser un bûcher immense au milieu de la place, prépara un festin splendide et, vêtu de ses plus magnifiques habits, se mit à table, mélangea son vin avec du nard, comme il eût fait pour une fête, distribua vers la fin du repas sa vaisselle et son argent à ses serviteurs. Puis monta sur son bûcher, et tandis qu'un affranchi y mettait le feu, il se fit tuer par un esclave. En ce moment, comme il y avait division dans les troupes qui garnissaient la ville, les portes s'ouvrirent, et César vit arriver à lui les légions que Scapula venait de composer d'esclaves et d'affranchis. Tout cela demandait à se rendre. En même temps, la 13e légion, de son propre mouvement, s'emparait des tours et du rempart. Alors les Pompéiens échappés à Munda mirent le feu à la ville, espérant se sauver à la faveur du désordre. Mais dès qu'il aperçut la flamme et la fumée, César se précipita au secours de la ville, et comme la 13e légion était, ainsi que nous l'avons dit, maîtresse des tours et des murailles, elle lui en ouvrit les portes. Ce que voyant les Pompéiens, ils cherchèrent à s'enfuir de la place, s'entassant aux portes ou sautant par-dessus les murs. On en tua 22 000 dans l'intérieur de la ville seulement, sans compter ceux qui furent massacrés dehors. César ne s'arrêta à Cordoue que le temps d'y rétablir l'ordre et partit aussitôt pour Hispalis, la Séville de nos jours. Mais aussitôt que, du haut des murailles, les habitants l'aperçurent, ils lui envoyèrent des députés pour implorer leur pardon et s'en remettre à sa clémence. César leur fit répondre que tout pardon leur était accordé, et, de peur que ses soldats ne se laissassent emporter à quelque mauvais désir, il les fit camper hors de la ville. Caninius Rebilius y entra seul avec quelques centaines d'hommes. La garnison pompéienne était restée à Séville. Indignée de ce que les habitants avaient ouvert leurs portes à César, elle envoya un des principaux du parti pompéien prévenir Cecilius Niger, surnommé le barbare à cause de sa cruauté et qui commandait un corps de Lusitaniens, que, s'il n'accourait sans retard, une magnifique occasion allait lui échapper. Cecilius Niger accourut. Il arriva de nuit près d'Hispalis, fut introduit dans la ville et égorgea toute la garnison que César y avait mise pour protéger les habitants. Puis, les soldats romains égorgés, il fit murer les portes et se prépara pour une défense désespérée. César eut peur, s'il tentait quelque assaut, que ses forcenés n'égorgeassent la moitié des habitants. Il se relâcha donc, avec intention d'une garde trop sévère, et la 3e nuit après son entrée dans Hispalis, Cecilius Niger en sortit, emmenant avec lui et les hommes qu'il y avait introduits, et l'ancienne garnison pompéienne. Mais, une fois que César, qui, sous son air d'indifférence, épillait tous leurs mouvements, les vit hors de la ville, il lança sur eux sa cavalerie, qui les tailla en pièces. Le lendemain matin, César entra dans Hispalis. Maintenant, revenons aux deux fils de Pompée. Cneius arriva à Carthée, suivi de 150 chevaux seulement. Il s'était tellement hâté que, quoiqu'il y eût 40 lieues de Munda à Carthée, il avait fait la route en un jour et demi. Arrivée là, et craignant quelque trahison de la part des habitants, il se fit porter en litière à travers la ville, ainsi qu'un simple particulier. Puis, une fois sur le port, il courut au vaisseau avec tant de hâte qu'en mettant le pied sur celui qu'il avait choisi, il s'embarrassa la jambe dans une corde, puis tomba, et qu'en voulant couper avec son épée cette corde, qu'il ne prenait pas le temps de dénouer, il se fit à la plante du pied une blessure profonde. Didius, qui commandait l'armée navale de César à Cadix, ayant appris ce qui venait de se passer, répandit sa cavalerie et son infanterie le long du rivage, afin de s'emparer de Cneius s'il tentait d'aborder sur quelques points. Didius avait calculé juste. Cneius Pompée, vu la précipitation de son départ, n'avait pas eu le temps de se munir d'eau. Il était donc forcé de suivre la côte et de s'arrêter de place en place pour faire égade. Et d'abord, Didius joignit sa flotte, lui livra bataille, coula bas et brûla les deux tiers de ses vaisseaux. Pompée se fit échouer et gagna le rivage dans l'intention de se retirer au milieu des rochers, formant une forteresse naturelle presque impossible à escalader. Il était blessé à l'épaule et au pied, comme nous l'avons vu, et s'était donné une entorse au pied non blessé. Il se faisait par conséquent porter en litière. Il avait abordé sans être vu et avait toute chance d'échapper, quand un homme de sa suite se montra et fut aperçu par les coureurs de Didius qui se mirent à sa poursuite. Pompée fit doubler le pas à ses hommes et atteignit le refuge qu'il cherchait. Les Césariens l'y voulurent forcer, mais ils furent repoussés à coups de trait et poursuivis jusqu'au bas de la montagne. Ils revinrent à la charge, mais inutilement. Alors ils résolurent d'assiéger les fugitifs et, en peu de temps, élevèrent une terrasse si haute que de son sommet, on pouvait combattre de plein pied avec l'ennemi. Ainsi menacés, les Pompéiens songèrent à fuir. Mais la fuite n'était point facile. Pompée ne pouvait marcher à cause de ses blessures et de son entorse, et ne pouvait monter à cheval ni en litière à cause de la difficulté des chemins. Voyant donc ses gens poursuivis, dispersés, égorgés sans miséricorde, il se cacha dans le creux d'un rocher. Mais un de ceux qu'il avait vu se cacher dans cette caverne le dénonça. Il fut pris et tué. Puis ses meurtriers lui coupèrent la tête, et au moment où César entrait dans Hispalis, cette tête du fils lui fut offerte, comme en Égypte, on lui avait offert celle du père. C'était le 12 avril de l'an 15 avant Jésus-Christ. Du reste, cette impitoyable expédition ne profita point à Didius, car se croyant désormais en toute sûreté, il tira ses vaisseaux sur le rivage pour les radouber, et tandis que s'accomplissait cette opération, se dirigea avec un corps de cavalerie vers une forteresse voisine. Mais les Lusitaniens qui avaient été dispersés et qui avaient abandonné Cneius s'étant réunis et voyant le peu d'hommes qu'avait avec lui Didius, lui dressèrent une embuscade, tombèrent sur lui et le tuèrent. Pendant ce temps, Fabius Maximus, auquel César avait donné le soin de poursuivre le siège de Munda, s'était emparé de la place, avait fait 11 000 prisonniers et avait tiré vers Osuna, ville fortifiée à la fois par la nature et par l'art. En outre, Sextus Pompée, qui s'était assuré qu'il n'y avait pas d'eau 1 lieue et demie à la ronde, avait fait couper tous les bois pour que César ne pût construire aucune machine. Mais Sextus n'attendit pas le résultat du siège. Il s'enfonça dans les montagnes des Celtibères et nous le verrons reparaître roi des pirates de la Méditerranée. 30 000 hommes tués à Munda, 22 000 à Cordoue, 5 ou 6 000 à Séville, 11 000 faits prisonniers, Cneius tué, Sextus en fuite, la guerre d'Espagne était finie. César reprit le chemin de Rome. Antoine vint au-devant de lui jusqu'à la frontière. Et César, qui avait pour Antoine le faible des hommes supérieurs pour les hommes inférieurs, César fit, à cette occasion, un grand honneur à Antoine. Il traversa toute l'Italie, l'ayant à ses côtés dans un char, tandis que derrière lui se tenaient Brutus Albinus et le fils de sa nièce, c'est-à-dire son petit-neveu, le jeune Octave. Ce retour fut sombre. Avec Pompée tué, avec sa race anéantie, on ignorait ce qu'était devenu Sextus. Ce n'était pas seulement un grand nom éteint, une grande famille disparue, c'était un principe détruit. Pompée n'ayant pu soutenir les droits de l'aristocratie et de la liberté, qui donc les soutiendrait après lui? Les vaincus commençaient une servitude sans espérance. Les vainqueurs, désenchantés eux-mêmes de la guerre, qui depuis 3 ans n'était qu'une guerre civile, les vainqueurs accomplissaient un triomphe sans gloire. César se sentait plus craint qu'aimé. Toute sa clémence n'avait pu empêcher les haines. Il était vainqueur, mais de combien peu s'en était-il fallu qu'il ne fût vaincu. Munda avait été pour lui un grand enseignement. Tout était donc là jusqu'à ses soldats qu'il avait cru infatigables. Quoique las de triompher lui-même, il voulut triompher encore, sans doute pour voir ce que dirait Rome. Et lui, qui n'avait jamais triomphé que de l'ennemi étranger, des Gaules, du Pont, de l'Égypte, de Juba, lui, cette fois, comme eût fait un de ces inhumains qu'on appelait Marius ou Sylla, lui triompha des fils de Pompée, dont la cause était celle d'une partie de l'Italie, dont la lutte était sympathique à la moitié des Romains. Mais César en était arrivé à mépriser Rome et voulait briser son orgueil. Il triompha donc des fils de Pompée et derrière lui ses soldats, cette voix du peuple, cette voix des dieux, derrière lui ses soldats chantaient « Fais bien, tu seras battu, fais mal, tu seras roi ». Or, on ne lui pardonna point de triompher ainsi des malheurs de la patrie et de se glorifier de succès que la nécessité seule pouvait faire excuser devant les dieux et devant les hommes. Et cela étonnait d'autant plus de la part de César que jamais il n'avait envoyé de courrier ni écrit de lettre au Sénat pour annoncer les victoires qu'il avait remportées dans les guerres civiles et qu'il avait toujours repoussé loin de lui une gloire dont il semblait honteux. Le lendemain, au théâtre, on l'applaudit à son entrée. Mais on applaudit bien autrement à ce vers de la pièce que l'on jouait « Ô Romains, nous avons perdu la liberté !» Puis ce qui révoltait surtout les Romains, c'était la suite de ce qu'ils avaient vu au retour d'Égypte. C'était cette reconstruction d'une Rome nouvelle, mieux que nouvelle, étrangère, sur la vieille Rome en ruine. C'était ces bannis de l'ancienne République rentrant à Rome derrière César. C'était ces barbares, gaulois, africains ou espagnols, montant au Capitole avec lui. C'était ces sénateurs, notés d'infamie, reparaissant au Sénat. C'était ces proscrits auxquels leurs biens étaient restitués. C'était cette Gaule transpadane, admise tout entière au droit de cité. C'était ce Balbus, un gaditan, premier ministre, ou à peu près. C'était enfin deux spectres venant à la suite de tous ces hommes et criant « Malheur !» Le spectre de Caton déchirant ses entrailles et le spectre de Cnaeus Pompée tenant sa tête à la main. Il est vrai que César a eu Rome et le monde pour auxiliaire. Il est trop juste qu'il s'acquitte envers le monde aux dépens de Rome. Tenez, il y a un personnage qui peut donner une idée de la situation où est Rome tout entière. C'est Cicéron. Cicéron, le type du juste milieu romain. Avec César, homme de génie dominant son époque de toute sa hauteur, Cicéron ne redeviendra jamais le Cicéron de Catilina et de Claudius. Voilà surtout ce qui blesse Cicéron, voilà ce qui blesse toutes les ambitions telles que la sienne. Cicéron, avocat et général, avoue lui-même que, comme avocat, il n'est pas beaucoup plus fort que César, tandis qu'il n'a pas besoin de dire que, comme général, César est plus fort que lui. Puis Cicéron est le fils d'un Foulon ou d'un maraîcher. César est fils de Vénus par les hommes, fils d'Ancus Martius par les femmes. Le plébéien Cicéron est aristocrate, mais pour arriver à l'être, quel chemin il lui faut faire? Il y passera sa vie et il n'atteindra pas à la moitié de la hauteur où reste César, qui a passé sa vie, lui, à descendre vers le peuple. Il ira cependant grossir la cour de César. Mais que sera-t-il à la cour de César tant que César y sera? César aura beau aller à lui, le prendre par la main, le grandir en l'embrassant, César sera toujours obligé de se baisser pour embrasser Cicéron. Qu'il y a loin de ce Cicéron, confondu dans la foule des courtisans de César, à ce Cicéron criant « Ô heureuse Rome née sous mon consulat !» Aussi, que fait Cicéron? Il boude. Il croit qu'en s'éloignant de César, il reprendra son ancienne taille. Point, en s'éloignant, il rentre dans l'obscurité, voilà tout. César, c'est la lumière. On ne voit que cela sur lesquels il projette ses rayons. Cicéron cherche à s'égayer. Il soupe avec Hirtius et Dolabella, Dolabella dont il a dit pique-pendre. Il leur donne des leçons de philosophie, eux, en échange, lui donnent des leçons de gastronomie. Tout cela se passe chez Cytérise, la courtisane grecque, l'ancienne maîtresse d'Antoine, que celui-ci promenait, assise à ses côtés, dans un char traîné par des lions. Mais hélas, il n'est plus le défenseur, il n'est plus le patron, il n'est plus le conseiller de personne. C'est sur ces entrefaites que sa fille Tully vient à mourir, et Cicéron porte deux deuils à la fois, le deuil de sa fille et le deuil de la liberté. Il élève un temple à Tully et essaie, pour qu'on parle de lui, de se faire persécuter par César en écrivant le panégyrique de Caton. Mais César se contente, lui, de publier l'Anticaton et, tout en allant gagner la bataille de Munda, de dédier à Cicéron deux volumes sur la grammaire. C'est joué de malheur, on en conviendra. Eh bien, l'histoire de Cicéron, c'est l'histoire de toutes les individualités, furieuses de ce que César a passé le niveau sur toutes les têtes et les a fait plier toutes sans en abattre une seule. Et cependant, un étrange phénomène se produit qui fait que le vainqueur est presque aussi triste que les vaincus. Pompée, vaniteux, quinteux, infidèle ami, politique irrésolu, homme médiocre enfin, Pompée a des clients, des admirateurs, des fanatiques. Ses admirateurs, ses clients, ses fanatiques sont des hommes d'une valeur supérieure à la sienne. Caton, Brutus, Cicéron. Cicéron surtout a pour lui tous les entraînements que l'on a pour une maîtresse capricieuse et volage. Il veut admirer César et ne peut qu'aimer Pompée. Voyez au contraire César. Quels sont ses clients? Un tas de coquins. Un Antoine, pillard, ivrogne, débauché. Curion, un banqueroutier. Célius, un fou. Dolabella, l'homme qui veut abolir les dettes, le gendre de Cicéron, qui a fait mourir sa femme de chagrin. Des créatures, pas d'amis. Antoine et Dolabella comploteront contre lui. Il n'osera plus passer sans escorte devant la maison du second. Lisez les lettres d'Atticus. Puis tout cela crie, tout cela le désapprouve, tout cela le honnit. La clémence de César fatigue tous ses aventuriers. Un peu de sang versé ferait si bien. César sait qu'il n'y a de bon dans son parti que lui-même. Après avoir été démagogue, révolutionnaire, libertin, prodigue, César se fait censeur, réformateur des mœurs, conservateur, économe. Dégoûté de ses propres amis, de qui s'entoure-t-il? De Pompéiens. Après les avoir vaincus, il leur a pardonné. Après leur avoir pardonné, il les honore. Il nomme Cassius en lieutenant, il fait Brutus gouverneur de la Cisalpine, il fait Sulpicius préfet de l'Achaïe. Tous les exilés rentrent successivement et reprennent les positions qu'ils occupaient avant la guerre civile. Si quelques difficultés s'élèvent contre le retour d'un proscrit, Cicéron accourt et les aplanit. Aussi, le Sénat élève un temple dans lequel César et la déesse se donnent la main. Aussi, le Sénat lui vote le siège d'or, la couronne d'or, une statue près des rois, entre Tarquin le Superbe et l'ancien Brutus, une tombe dans le Pomerium, ce que personne n'a obtenu avant lui. Lui savait bien que tous ses honneurs étaient plus meurtriers que conservateurs. Mais qui osera tuer César quand le monde entier a intérêt à ce que César vive? Quelques-uns, dit Suétone, ont soupçonné que César désirait en finir avec la vie. C'est ce qui expliquerait son indifférence sur sa mauvaise santé et sur les pressentiments de ses amis. Il avait renvoyé sa garde espagnole. Il aimait mieux mourir que de craindre toujours. On le prévient qu'Antoine et Dolabella conspirent. Il secoue la tête. « Ce ne sont point ces figures pleines et enluminées qui sont à craindre, dit-il. Ce sont ces visages maigres et hâves. » Et il montrait Cassius et Brutus. Enfin, comme on se rangeait à son avis et qu'on lui assurait que Brutus organisait un complot, « Oh !» dit César en tâtant ses bras amaigris, « Brutus donnera bien le temps à ce faible corps de se dissoudre de lui-même. »